Alors merci pour la louange, merci pour ce chant que tu nous as apporté, Chris Love. Je vais vous parler ce matin de la foi qui prépare la présence de Dieu. La foi qui prépare la présence de Dieu. Et ce sujet, je l'ai à cœur parce que, en fait, nous sommes, en tant que membres des églises, en tant que chrétiens, nous sommes malheureusement souvent confrontés au fait que l'on prie, que l'on cherche la présence de Dieu, et qu'en fait on ne le voit pas, on ne l'entend pas, et on se dit, mais pourquoi est-ce que je dois encore prier? Et j'aimerais en fait vraiment vous donner une facette sur le sujet, une facette que j'espère va vous toucher. J'aimerais déjà rappeler dans un premier temps que dans la présence de Dieu, il y a d'abondantes bénédictions. Et tous disent, mais oui, c'est vrai. Dans la présence de Dieu, il y a d'abondantes, abondantes bénédictions. Par exemple, dans la Bible, tout au long de la Bible, je vous donne quelques versets. Dans Exode 33, verset 14, il est dit, « L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » On a entendu tout à l'heure cette exhortation. L'Éternel veut nous donner du repos. Il marchera lui-même avec nous et il nous donnera du repos. Dans Ésaïe 41, verset 10, il est dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Vous voyez ? Donc, la foi prépare la présence de Dieu. Dieu, il est déjà prêt. Il est déjà là. Dieu est déjà là. Oui. Il est déjà là. Mais c'est nous qui ne le voyons pas, c'est nous qui ne percevons pas. C'est nous qui avons l'impression que, quelque part, il faut que je prie pour qu'il apparaisse ou qu'il me fasse signe. Il est dit dans Ésaïe 8, au verset 10, il est dit, formez des projets et ils seront anéantis, donnez des ordres et ils seront sans effet. Pourquoi? Car Dieu est avec nous. Si Dieu est avec moi, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Ce sont des versets comme ça qu'on peut encore chercher, qu'on peut encore lire aussi, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Dans le Nouveau Testament, j'ai Romains 8, 31. Il est dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Matthieu 28, 20, il est dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous n'avez pas pu finir. J'ai cru que c'était tellement sur votre cœur que ça allait sortir tout seul. Hein. Mais psaume 16 dit ceci, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Des délices éternelles à ta droite. Vous voyez, pour être au bénéfice de ces bénédictions, Dieu attend que l'on réponde par la foi à son offre. Donc c'est une question de foi que de pouvoir entendre Dieu. C'est une question que de foi que de pouvoir véritablement voir ce que Dieu fait. Donc si quelque part, vous et moi, eh bien on ne voit pas Dieu, si on a l'impression que Dieu ne répond pas, eh bien ce n'est pas parce que Dieu n'est pas encore là, ce n'est pas parce que Dieu dort ou sommeille, mais c'est parce que moi j'ai un problème de foi. Ah bon? Oui. Je vous donne deux, trois exemples par rapport à la foi. Vous savez, le matin, quand vous allez attendre le tram pour aller au travail, pour aller en ville, vous y allez avec confiance, avec assurance. Et vous êtes sûr que le tram va venir. Pourtant, il n'y a pas de tram, hein? Mais vous attendez, vous êtes sûr que le tram va venir. C'est un acte de foi, quelque part. C'est cette confiance ferme que le tram va venir. Et vous n'avez pas besoin de prier, hein, pour que le tram arrive. Vous n'avez pas besoin de crier, mais « Oh, tram, viens !» Vous êtes d'accord ou pas? Un autre exemple, c'est quand vous prenez votre voiture. Vous êtes sûr qu'en prenant votre voiture, d'abord déjà, elle va démarrer. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous êtes assuré qu'en entrant dans la voiture, je mets la clé, elle va démarrer. Et si elle ne démarre pas, vous n'allez pas vous dire « Seigneur, pourquoi ma voiture ne démarre pas ?» Vous allez dire « Bon, j'irai voir avec le garagiste, il m'arrangera ça. » Mais il y a une assurance, il y a une confiance quelque part qu'en fait, le matériel va répondre. Et on peut continuer comme ça pour beaucoup de choses de la vie naturelle, dans la vie naturelle dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Eh bien, moi, je voudrais en fait prendre en parallèle exactement notre attitude par rapport à Dieu. Dieu, il a créé le monde, il a mis des lois, et il a dit, si vous faites cela, vous aurez ceci et cela. Et nous, nous sommes là en train de supplier Dieu qui dit, mais en fait, j'ai donné des lois. Et ces lois, elles fonctionnent comme le matin, le soleil se lève, le soir, il se couche, la lune vient, etc. On n'a pas besoin de prier pour qu'il y ait la nuit, on n'a pas besoin de prier pour qu'il y ait le jour, la pluie, etc. Il peut y avoir des manques, mais le système est mis en place de telle manière, en fait, qu'il tourne. Et Dieu a fait dans sa création en sorte que les choses sont là. Et en fait, on peut et on doit croire. Et c'est ça le problème, c'est ça mon problème. Vous voyez, en fait, avant d'aller un tout petit peu plus loin, je veux quand même dire aussi ceci, c'est que Dieu considère le manque de foi comme étant de l'incrédulité. Le manque de foi, c'est de l'incrédulité. Et moi, je rajouterais une image que j'ai vue, en fait, de la part d'un prédicateur, Mamadou Karambiri, qui disait, en fait, que la foi est le langage du ciel et l'incrédulité le langage de la terre. Et en fait, on est là au milieu en tant qu'individu et à l'incrédulité qui nous attache à la terre, qui dit, mais attention, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Et la foi de Dieu qui dit, mais ose, va. Et en fait, on est là, et puis en fait, on... Voilà, voyez cette image. C'est que l'incrédulité, elle nous colle à la peau, comme la foi voudrait aussi prendre la place. Mais bien souvent, le monde visible, eh bien, est beaucoup plus fort que le monde de Dieu, en fait. Et certains personnages de la Bible, en fait, ont attendu longtemps, je pense, à Moïse, ou bien je pense à Abraham, ils ont attendu longtemps de voir une parole que Dieu leur avait donnée. Parfois 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans pour le désert, etc. Mais Dieu a dit, et en fait elle allait se produire. Mais la foi, l'incrédulité dans la vie de tous les jours, fait qu'on ne voit pas, donc on doute. Et plus on doute, et moins on s'attend à ce que Dieu nous promet. Est-ce que ça va avec... Jusque-là, l'incrédulité, la foi, vous voyez un petit peu vers quoi je veux aller ? Non. Ben alors allons plus loin. Dans Jean 16, l'évangile de Jean, au verset 8, il est dit « Quand le Saint-Esprit sera venu, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. » Hein, le fait de ne pas croire dans la parole de Dieu, c'est un péché. Alors évidemment, il y a le combat toujours. Oui, mais péché, est-ce que c'est vraiment péché ? Non, Dieu dit que de ne pas croire en lui, c'est un péché. Il nous invite à croire, malgré ce que l'on voit sur terre, à croire en ce que lui, il promet. Romains 14, 23 dit « Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. » Donc l'incrédulité est un obstacle aux manifestations de la puissance de Dieu. Même Jésus, quand il marchait sur la terre, au moment où il allait dans certains endroits, il se méfiait de l'incrédulité des gens, parce que l'incrédulité rendait impuissant même ses actes. C'est fort quand même. Chaque fois qu'il allait, par exemple, même pour ressusciter la fille de Jaïrus, il n'a pas pris tout le monde avec lui. Il a pris certaines personnes. Il a demandé aux autres de sortir, de rester. Et là, il y avait cette espérance des parents d'une part et le soutien, disons, de ses disciples proches de lui. Et là, il pouvait véritablement faire. Et il y a d'autres endroits où il a pris des lépreux, il est sorti de la ville. Et lorsqu'il les a guéris, il a dit, mais n'allez pas. N'allez pas vers les autres parce que vous allez perdre votre guérison, votre miracle, etc. Et je profite de dire simplement ceci, c'est que dans les milieux chrétiens que nous fréquentons, de nombreuses fois, on met en doute des guérisons qui ont été données le soir lors d'une prière, tout simplement parce que le lendemain, la personne dit « Oh, tu sais, j'ai encore mal, je ne sais pas si ça s'est passé, en fait, ce qu'on a prié pour moi. » Et en fait, cet acte d'incrédulité, finalement anéanti la guérison que nous avons eue. Vous savez, même quand on prend des médicaments et qu'on est guéri, on a encore des fois des douleurs. Mais pourtant, parce que le médecin dit qu'on est guéri, on y croit et on va de l'avant. Mais quand on a prié pour nous et puis qu'on voit le lendemain qu'on a encore mal, qu'on a encore courbaturé, qu'on n'a pas de résultat, on dit « oulala, ben je crois qu'il faut qu'on prie encore pour moi ». Donc, pour être dans la présence de Dieu, parce que la présence de Dieu, elle est là, Dieu veut agir pour nous au milieu de nous. Quand Dieu était un exemple manifeste de la présence de Dieu sur terre auprès de son peuple, c'est avec les Hébreux. Avec les Hébreux, Dieu était là, et en fait, tant qu'il était là, il y avait des choses extraordinaires qui se passaient, dans le sens en fait que la nuit, ils avaient un feu qui les protégeait du froid, et la journée, il y avait la nuée qui les protégeait de la chaleur, il n'y avait pas de malades, il n'y avait pas de ceci. Alors il y a eu beaucoup de morts, parce qu'il y a eu des murmures, il y a eu des rébellions, etc. Donc il y avait la colère de Dieu qui faisait des dégâts dans les rangs. Mais en fait, la présence de Dieu, elle a fait au milieu de ce peuple qu'en fait, au moment où Dieu était là, il n'y avait aucun problème. Au contraire, Dieu répondait son amour. Est-ce que vous connaissez peut-être un autre moment où Dieu était aussi au milieu de la foule, des gens, et des choses se produisaient? Alors, dans les actes des apôtres, oui. Oui. Et voyez, je dirais, l'acte de foi que les apôtres avaient à ce moment-là. Et puis quand Jésus était là, si vous regardez les évangiles, depuis le moment où Jésus a été rempli du Saint-Esprit, au moment où il a été rempli par le Saint-Esprit, hein, il était rempli de toute, finalement, quelque part, la dimension de Dieu, au moment où il marchait, il faisait que guérir des gens, enseigner. Enfin, c'est incroyable. Donc Dieu, au milieu de nous, veut faire du bien. Dieu et les gens, Jésus lui-même, quand il parlait aux gens, il parlait de manière à ce qu'ils ne comprennent pas. C'est étonnant, hein? Il parlait aux gens de manière à ce qu'ils ne comprennent pas tous les mystères. Et en fait, les gens venaient, étaient touchés, et quand même, quelque part, il comprenait des choses. Et c'est ce que je voudrais maintenant continuer, non pas d'expliquer, mais disons de... Je voudrais un petit peu en parler davantage, afin que nous puissions ensemble goûter, ou en tout cas avoir envie à cette dimension. Je disais qu'il était nécessaire d'avoir la foi, parce que la foi est le langage du ciel. Alors si on dit, on déchire les cieux, on veut que le ciel descende sur nous, mais il faudrait en fait qu'on adopte le langage du ciel, parce qu'on ne peut pas, dans le royaume de Dieu, parler le langage de la terre. Ok ? On ne peut pas parler le langage de la terre dans le royaume de Dieu. Ok. Alors, il est dit dans Hébreux 11:1, il est dit, « Or, la foi, c'est la ferme assurance de choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elles que les anciens ont reçu un témoignage favorable. » À cause de la foi, que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Et il est dit encore au verset 3, « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. » Ah bon ? Le monde n'a pas été fait à partir de choses visibles. Et dans d'autres écrits, on parle que le monde, ce que nous vivons ici, c'est l'ombre de... Vous avez déjà lu ça. Nous sommes l'ombre de... Mais nous sommes l'ombre de quoi? Nous serions l'ombre de quoi? L'ombre de ce qu'il y a dans le ciel. Donc quand on exprime notre foi, c'est qu'en fait cette foi, qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, ces choses qu'on espère, elles se trouvent dans le ciel. Elles existent dans le ciel. La perfection est dans le ciel. C'est Dieu, c'est intéressant à entendre ça, c'est que Dieu, quelque part, en fait, a projeté sur cette terre, finalement, l'ombre de choses qui se trouvent en dehors, dans le ciel. Donc ça veut dire effectivement que quand on a la foi, quand Dieu dit « En mon nom, vous ferez ceci et cela », donc ça veut dire que si on le prend pour soi, qu'on l'accepte et qu'on fait abstraction de ce qui se passe sur la terre et qu'on dit « Mais Seigneur, C'est de cela vraiment que je veux maintenant. Je veux en fait quelque part en fait recevoir cet héritage, cette réalité. Je veux la recevoir. C'est avec un état d'esprit, avec une pensée qui est justement démontré par dans le Hébreux 11 avec la liste des héros. D'accord ? La liste des héros, c'est Abel, c'est il y a Abraham, il y a, vous voyez, enfin, quand on reprend la liste, on voit que tous ces gens-là ont exprimé des choses, ont désiré des choses, en fait. Ils ne pouvaient pas savoir comment, ils ne pouvaient pas savoir d'où, etc., mais ils étaient en contact, en esprit, avec quelqu'un qui leur a suggéré de faire ces choses-là de cette manière-là. Ce quelqu'un, c'est Dieu, et c'est par la foi, et c'est par, quelque part, la relation que nous avons avec Dieu, qu'on peut comprendre ces choses-là. J'ai un peu plus loin. Alors, j'avais pris une traduction de la King James, pour illustrer la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Parce que dans la King James, ils disent « Now faith is the substance of things hoped for ». C'est-à-dire que la foi n'est pas une ferme assurance, mais une substance, une matière. La foi est la réalité, et la réalité des choses qu'on espère. Oui. Et ça donne une dimension, ça donne une espérance, quelque chose de différent. Je dois... Puisque c'est là, je n'ai pas besoin de supplier Dieu, parce que Dieu dit, mais c'est pour toi. Prends. Toi, c'est vous. Oh, j'ai mal, mais je vous ai déjà tout donné. Prenez-le. Alors, quelques-uns, effectivement, quelques-uns, il y a des noms, peu importe les noms, il y a des noms, des gens qui ont compris, et en fait, quand ils prient, les choses se passent. J'ai entendu une histoire de quelqu'un, d'un prédicateur à une époque, lui... Il dansait en guérissant les gens, tellement il était à l'aise avec le fait que Dieu lui... Il avait reçu ce don, et ce don, il le manifestait de manière, finalement, avec en toute liberté. Il n'y avait pas une histoire de prière, de mise en condition, etc. En fait, il libérait. Et puis d'autres manières, hein. Il y a Bénin, etc. C'est des exemples. C'est des exemples. Alors on peut dire, oui, mais c'est du cinéma, oui, mais non, non, justement... Dieu donne comme lui il veut, et nous l'utilisons comme nous pouvons. Donc Hébreux 11 nous donne une liste de héros de la foi, et il nous montre le caractère de la foi. La foi, eh bien, c'est une assurance de ce qu'on espère. On est assuré que ce qu'on espère, eh bien, on va pouvoir l'avoir. Dit autrement, elle est, en fait, la foi est une réalité, vous voyez, c'est la réalité des choses que l'on espère. Je ne vais pas demander des choses impossibles. Si je demande la guérison, c'est pas de la folie. Ou alors c'est de la folie. Si je demande d'être déchargé de ma peine, c'est que cette peine, elle existe. Mais ça veut dire qu'elle est l'ombre de quelque chose. Alors je demande que cette peine soit enlevée. Merci pour le soutien que je rencontre auprès de certains. La foi, eh bien, elle a procuré aux anciens le sentiment d'être agréable à Dieu. Voyez. Par ailleurs, il nous est révélé que le monde a été tiré du néant par une parole de Dieu. Et pourquoi ? Et par une parole de Dieu. Donc cette révélation, le fait de savoir cela, produit en l'homme une puissance de transformation. C'est-à-dire que Dieu qui a créé ce monde nous a donné sa parole. Lisons-la, afin de connaître Dieu, afin de savoir comment utiliser, afin de ne pas être en train de prier, de jeûner pour une guérison qui nous a déjà été donnée à la croix il y a 2000 ans. Ah, pardon, prier encore. Dieu nous a donné, vraiment nous sommes aujourd'hui, est-ce que nous sommes, quand on dit on va vers la maturité, on a parlé hier par rapport à l'étape numéro 2 de l'EME, l'Église motivée par l'essentiel, on a parlé, on est en train de, le chrétien, vraiment doit tendre vers la maturité. La maturité, c'est Jésus-Christ. Et quand il atteint cette maturité, il atteint aussi le niveau de fils. Et nous sommes, nous, nés de nouveau, chrétiens depuis 25, 30 ans, 40 ans, nous sommes toujours et encore dans la condition d'enfants. Et dans la lettre de Jean, il est dit petits-enfants. Tant que nous sommes petits-enfants, nous ne pouvons pas avoir finalement quelque part les responsabilités, les privilèges et autres que le fils peut avoir. Alors soupirons après le statut de fils. Soupirons après cette maturité. Et ne disons pas « Oh, encore !» Ne disons pas « Oh, mais c'est fatigant !» Non, luttons, travaillons pour avoir ce niveau-là qui va nous permettre finalement quelque part d'être d'être à l'aise simplement avec la parole de Dieu. À l'aise avec la parole de Dieu. Quand les disciples voient tomber quelqu'un de la fenêtre parce qu'il dormait après un discours, il ne dit pas « Il est mort !» Le disciple dit « Non, laissez-le dormir parce que le Seigneur va le toucher. » Quand est-ce qu'on aura ça ici? Et moi, le premier, quand est-ce que je serai... Cette chaise, c'est pas « j'ai le sentiment que Dieu me guérit ». Non, non, si je parle de sentiment, c'est que j'ai pas la foi. C'est pas « oui, je pense que... » Non, non, c'est pas la foi. Alors, on doit prier vraiment pour que cette foi que Dieu nous a donnée, parce qu'il a imparti une dose de foi à chacun de nous, il faut qu'on prie pour que cette foi qui est en nous, elle puisse véritablement, en fait, maturer, qu'elle puisse, en fait, s'ouvrir, et qu'on puisse avoir l'assurance, finalement, qu'on puisse avoir la certitude qu'aujourd'hui déjà, nous sommes prêts pour faire de grandes choses. D'un point de vue analytique, en fait, on constate que les héros de la foi ont eu une foi déraisonnable, les amis. Et là, on entre justement dans notre combat. Nous avons la foi, nous, vous et moi, nous avons une foi naturelle. Nous avons une foi humaine. Nous avons une foi qui a besoin, quelque part, d'être confirmée par les scientifiques. On a une foi qui a besoin d'être « oui, mais ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, ça, c'est non, 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 pas comme ci, comme ça. » Et cette foi-là est une foi qui nous tue. Parce que les héros de la foi, ils avaient une foi déraisonnable. Une foi qui espérait, au-delà de toute espérance, ils espéraient quelque chose et ils se mettaient en marche jusqu'à ce qu'ils l'obtiennent. La foi d'Abel et des héros, eh bien, elle est vraiment de l'ordre du surnaturel parce qu'elle était en dehors de la raison. Nous, nous cherchons toujours le correct. Ah, il est tombé, oh, c'est pas le Saint-Esprit, c'est des idées, etc. Oh, il a fait comme ça, ah, mais non, ça peut pas être de Dieu. Ça nous empêche d'avancer. Ça nous empêche d'avancer. On n'a pas, quelque part, en fait, à avoir cette attitude-là. La foi des héros de la foi, eh bien, elle est basée sur le fait de croire pour voir. On croit pour voir des résultats. Et à ce moment-là, on s'attend à un miracle. En opposition à la foi surnaturelle, nous avons cette foi naturelle qui, en fait, elle est basée sur le fait de voir pour croire. La foi surnaturelle, elle est basée sur le fait de croire pour voir les choses. Et la foi naturelle, elle est basée, elle, sur le fait de voir pour croire. Et en opposition à Abel, justement, il y a notamment des gens comme Nicodème ou Thomas, voyez. Nicodème, il a vu Jésus, il a entendu Jésus, il a su que quelque part Jésus était un homme particulier, mais parce qu'il avait des pères, parce qu'il avait un statut, parce qu'il avait finalement une responsabilité morale par rapport, etc., etc. Il n'a pas adhéré. Il est resté en arrière. Il est allé voir Jésus de nuit afin qu'on ne le voie pas. Et Thomas, la même idée, cette foi naturelle qui dit non, non, si je... Il était avec Jésus, il a entendu le discours, il était là lors du dernier repas, il a vu la crucifixion, certainement. Puis d'un coup, on dit Jésus est ressuscité, il dit non, non, moi si je ne vois pas, si je ne vois pas. Et cette fois-là, je n'attaque pas parce que je suis de cette même nature. Je suis de cette même nature qui doute. Oui. La foi qui s'attend au miracle produit des miracles, les amis. Alors que la foi qui veut voir pour croire n'accomplit et n'obtient aucun miracle. Et c'est Jésus lui-même, lorsqu'il était sur terre, qui disait... Ah, vous voulez voir, vous voulez comprendre, eh bien, vous ne comprendrez rien et vous ne verrez rien. La différence entre la foi surnaturelle et l'espérance. La foi, eh bien, elle est tournée vers Dieu et a affaire avec le passé, le présent, et bien évidemment, elle nous propulse dans l'avenir. La foi, eh bien, elle nous est donnée pour recevoir maintenant ce que Christ a accompli à la croix. Pour recevoir maintenant. La foi, elle est pour maintenant. Seigneur, je voudrais vraiment, non pas comprendre, mais passer à l'acte. Il a pris le péché, il a pris nos maladies, il a pris nos peines, il a pris nos blessures. Et par la foi, nous recevons maintenant le bénéfice de son sacrifice pour autant qu'on le réclame. Il y a plein comme ça de lots qui sont au ciel, qui attendent leur destinataire. Et il faut qu'on les réclame. L'espérance, n'est-ce pas ? L'espérance qui est un piège pour nous aussi. L'espérance a affaire exclusivement avec l'avenir. L'espérance, elle est tournée vers le futur et elle a été donnée dans la perspective d'attendre quelque chose qui vient. Souvent, on est là en train de dire « Oui, j'espère que je vais être guéri. » Mais l'espérance, c'est pour le futur. Si on est dans l'attente de recevoir quelque chose de la part de Dieu et qu'on est en mode espérance, les amis, on risque d'attendre longtemps. On risque d'attendre longtemps la réalisation de notre attente. Alors, un exemple d'espérance, eh bien, c'est on espère le retour de Jésus-Christ. OK, on espère, on attend. Mais pour une guérison, pour un boulot, pour des problèmes d'aujourd'hui, etc., on n'espère pas que Dieu nous entende. N'est-ce pas ? On n'espère pas. On réclame. Quelque part, en fait, c'est un lot qui nous attend. On réclame pour recevoir maintenant une réponse de Dieu. Ainsi, eh bien, on veut une guérison, on veut une bénédiction maintenant. Je ne vais pas attendre, et puis on verra quand ça viendra. Mais je dis, Seigneur, je désire recevoir maintenant. Parce que Jésus-Christ, à la croix de Golgotha, eh bien, il a payé le prix. Il s'est sacrifié afin que je puisse l'avoir maintenant. Maintenant, aujourd'hui. L'espérance, elle a été donnée à l'homme pour attendre. Hein? L'espérance, il y a la foi, l'espérance et l'amour. La foi pour parler, voir donc rester en contact avec le Seigneur et avec les projets de Dieu. L'espérance, parce que ça nous permet de tenir dans la difficulté, etc. Mais l'amour, c'est ce qui est éternel. Et vous savez qu'au ciel, la foi et l'espérance vont disparaître. On ne vivra plus que d'amour. Donc l'espérance aujourd'hui, elle a été donnée pour attendre. Parce que quand on attend là, d'être délivré, quand on attend, etc., eh bien on peut tenir dans les difficultés. Voyez. L'espérance biblique comporte aussi des éléments de connaissance et d'assurance. Et c'est là, en fait, qu'on se dit, bon, ben, peut-être qu'il y a quelque chose avec la foi. Alors j'espère, par la foi, que je vais guérir demain, qu'il y aura une réponse. J'espère que si je prie pour toi, ça va aller mieux. Je crois que si je le fais, ça va aller mieux. Si on part avec ce genre de, comment on pourrait dire ça, je dirais, c'est très subtil en fait, hein, c'est très subtil comme langage. Mais si on se lance dans ce genre de combat, en fait, on perd quelque chose. Alors ce matin, je voulais simplement essayer de, quelque part en fait, de dire notre responsabilité et la mienne donc, hein, face finalement quelque part au fait qu'on ne reçoit pas aujourd'hui ce que l'on demande auprès du Seigneur depuis si longtemps. Importance de la foi. La foi est une semence que Dieu a mise en nous et qui nous permet d'être reliés à lui, Seigneur. La foi est une semence que Dieu a mise en nous et qui nous permet d'être reliés. Parce qu'en fait, pour alimenter notre désir, finalement, quelque part, d'être mieux, d'avoir le salut, etc., il faut qu'on soit branché à la source qui est le Seigneur. Il faut qu'on lise sa parole, il faut qu'on lise ses promesses, il faut qu'on lise, en fait, la raison pour laquelle il a créé le monde. Et à ce moment-là, en fait, au moment où on est en contact, eh bien, on voit, en fait, que la situation dans laquelle on est, c'est une situation passagère. Et si c'est une situation passagère, alors on peut, quelque part, dire, mais Seigneur, je te demande de raccourcir ce temps. Raccourcir ce temps, ça ne veut pas dire aller au paradis, parce que le Seigneur nous a mis sur terre afin qu'on travaille. Le Seigneur nous a mis sur terre afin qu'on aille vers d'autres. Le Seigneur nous a mis sur terre afin qu'on puisse annoncer la parole de Dieu. Il nous a mis sur terre afin que, une fois que nos problèmes sont résolus en lui, on puisse s'occuper des problèmes des autres, qu'on puisse apporter à d'autres cette espérance. Donc, Dieu nous rend capables de saisir la réalité, hein, la foi. Il nous rend capable de saisir la réalité des choses qu'on espère. Quand on dit déchire le ciel, Seigneur, il a déchiré le ciel, les choses sont à portée de main. Et qu'est-ce que je fais maintenant avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Allez les uns vers les autres. Allons ensemble. Et véritablement, en fait, non pas démontrons, on n'a pas à démontrer parce que c'est le Saint-Esprit qui va convaincre de justice, de péché. Hein. C'est le Saint-Esprit qui va effectivement emmener d'autres, amener la transformation chez d'autres. Nous, nous sommes juste des héros dans le sens de le héros, c'est celui qui proclame, qui crie la parole de Dieu. Nous sommes là pour parler. En parlant, on va nous-mêmes, en fait, envoyer des semences d'espérance, de foi, etc., chez les gens qui nous entendent. Hébreux 11.3 nous dit, hein, il dit, « Le monde visible a été tiré, créé à partir du monde invisible. » J'aimerais vraiment que vous puissiez entendre ceci ce matin. Qu'en fait, nous sommes, quelque part, tout ce que nous vivons, tout ce que nous faisons, etc., ce n'est que l'ombre de quelque chose qui existe au ciel. Quand Moïse a dû faire les plans du tabernacle, le ciel s'est déchiré, oui ou non? Et quand il a regardé, il a vu quelque chose. Et c'est ce qu'il a vu qu'il a redessiné. Mais ce qu'il a vu et qu'il a dessiné est une pâle représentation de ce qu'il y avait au ciel. Donc ça veut dire en fait quelque part que si lui a vu ces choses-là, c'est que nous aussi nous pouvons voir. Mais il y a la même chose avec le serviteur Géasi, hein, serviteur d'Élisée, qui a vu ses... Qu'est-ce qu'il a vu, vous savez? Il a vu une armée d'anges. Et en fait, il a dit, mais ceux qui étaient là étaient plus nombreux que ceux qui venaient les attaquer. Donc, ils ont vu, pourquoi nous ne verrions pas? Ils sont de la même nature que nous. Nous sommes de la même nature qu'eux. Est-ce que vous voulez rêver? Rêver comme Dieu. Est-ce que vous voulez des signes au milieu de nous? Alors, passons à l'acte. Passons à l'acte. Seigneur, eh bien voilà. Il y avait tellement de choses que j'ai reçues, découvertes et tout. Je ne veux pas tout vous donner, donc pas parce que je ne veux pas le donner, mais parce que si déjà on prend quelques petites choses là, et qu'on puisse les mettre en application, eh bien, ce serait tellement bon. On pourrait... Oui, vraiment, quand on prie les uns pour les autres, qu'on veut soulager les uns les autres, des peines, on a nos aînés qui ont besoin d'être encouragés, soutenus. Vous savez, ce n'est pas que je veux traîner, mais c'est que je ne veux pas trop. Moïse, quand il est entré dans le désert, il avait quel âge? Quand il est retourné vers Pharaon, il avait quel âge? 80. Et aujourd'hui, les aînés au milieu de nous, 80, hein, mais les aînés au milieu de nous, il n'y en a pas beaucoup qui ont 80 ans. Il n'y en a pas beaucoup qui ont 80 ans. Il n'y en a plus beaucoup. Mais ça veut dire en fait que nous sommes tous capables de faire ce que Moïse a fait à 80 ans à passer. Par la grâce de Dieu. Et on peut en prendre d'autres encore, d'accord? Abraham, quand il a marché, etc., etc., il avait aussi plus que 75 ans. Donc, je veux dire, ce que je voudrais, c'est nous encourager. En fait. Nous encourager, en fait, à dire, mais en fait, c'est vrai qu'il y a des choses à faire. C'est vrai qu'en fait, on est encore plein de force. On est encore plein d'allant. On est encore plein, et en fait, il faut qu'on c'est pas des petits problèmes de la vie de tous les jours qui doivent nous anéantir. Ah, mais oui, mais Mwanza, tu connais pas. Oui, je connais, je suis sur une chaise. Oui, je connais. Mais ça ne m'anéantit pas. Donc, je veux simplement vous encourager, nous encourager. On n'est pas dans l'église pour faire du, entre guillemets, hein, on n'est pas là pour recevoir, louer le Seigneur. Non, non, non. Il faut que ce qu'on reçoit, il faudrait qu'on puisse... Ok. Ok, j'ai fini. Seigneur, eh bien, je vais peut-être prier, peut-être avant, pour tout ça, on va prier pour que, Seigneur, qu'on puisse avoir une compréhension de la foi qui soit motivante, quoi. Qu'on n'ait pas une compréhension de la foi qui nous plombe, mais qu'on ait une compréhension de la foi qui nous mette en marche comme Pierre, comme Paul. Paul disait, mais il faut que j'y aille, il faut que je fasse. Voilà, il faudrait qu'on ait cette foi qui nous mette en avant et qui nous donne envie d'aller dans notre mission. Ça ne veut pas dire qu'on doit être tous des pasteurs, mais ça veut dire que là où vous êtes, vous avez chacun du travail à faire. Seigneur, eh bien moi, je lève les mains, Seigneur. Moi, je te bénis pour ma famille, Seigneur. Mais de la même manière que tu as touché ma famille, Seigneur, eh bien, je prie pour la paroisse de Carouge. Je prie, Seigneur, que les gens ne disent pas « Oh, il faut », mais qu'ils disent « Mais Seigneur, quel bonheur de te servir, quel plaisir de venir te louer, quel privilège de pouvoir prononcer ton nom, quel, Seigneur, de pouvoir voir des miracles, de pouvoir voir des gens, des enfants donner leur cœur au Seigneur, de pouvoir voir des couples qui se réconcilient et qui marchent pour toi, de pouvoir voir, Seigneur, des gens qui disent, mais, oh, je te prie, Seigneur, et je te remercie de ce que tu as de la patience envers nous. Seigneur, je te remercie de ce que nous, on a de tellement beaux bâtiments, on a de tellement du bon matériel, on a tout ce qu'il nous faut, Seigneur. Eh bien, maintenant, donne-nous aussi le petit coup de pouce, Seigneur, pour en faire quelque chose. Gloire et louange à ton nom, Jésus. Merci parce que tu ne cherches pas des gens parfaits. Regardez, moi, je suis vraiment pas parfait. Je suis vraiment pas à bien parler, etc. Et le Seigneur ne cherche des gens comme moi, imparfaits. Alors, levons-nous et allons de l'avant. Et que le Seigneur soit loué, soit glorifié. Et qu'au moment où il viendra, il nous dise, viens, viens dans le repos de ton maître. Amen. Seigneur.